Étudions les bienfaits de la méditation. La méditation est une méthode qui vous permet de connaître votre esprit. Mais pourquoi donc? Ne serait-il pas plus simple, pensez-vous, de simplement laisser mon esprit en paix? J'ai réussi à faire mon chemin jusqu'ici en laissant simplement se produire ce qui devait se produire, alors pourquoi me mettre à interférer aujourd'hui? Le Bouddha a répondu à ceux qui avaient déjà les mêmes doutes à l'époque en comparant l'esprit ordinaire, c'est-à-dire l'esprit des êtres ordinaires, non éveillés, à un éléphant fou. Dans l'Antiquité, alors que les éléphants sauvages étaient chose commune en Inde, cette image était parfaitement compréhensible pour les disciples du Bouddha, et aujourd'hui encore de nombreux villageois ont fait eux-mêmes les frais des ravages que peut causer un éléphant déchaîné. Selon le Bouddha, l'esprit qui fonctionne sous l'influence de poisons comme la haine et l'avidité est encore plus destructeur que tout un troupeau d'éléphants en colère. Non seulement il peut écraser le bonheur de votre vie présente, mais il peut en plus détruire votre bonheur dans d'innombrables vies futures. La solution à ce problème? Il faut faire quelque chose pour dompter cet éléphant fou qu'est l'esprit. Et cette chose, c'est la méditation, justement. Pour apprécier la valeur de la méditation, vous devez vérifier comment votre esprit fonctionne en ce moment même. Vous n'aurez pas besoin de faire de longues recherches pour vous rendre compte que votre esprit a subi des influences assez lourdes par le passé. Ces influences ont formé vos attitudes, vous ont conditionné à réagir de certaines façons spécifiques aux événements de votre vie. À moins que vous n'ayez déjà atteint un certain degré de réalisation spirituelle, ce conditionnement, dont une bonne partie est négative, vous affecte encore aujourd'hui. Par réalisation spirituelle, nous entendons la liberté qui provient de la vision profonde ou pénétration de votre conditionnement pour atteindre la paix et la clarté qui se trouvent au-dessous. Par exemple, pensez simplement à la manière dont votre environnement vous bombarde en permanence avec des messages choquants et subliminaux sur la manière dont vous devriez penser et vous comporter. Entrez simplement dans un magasin et une espèce de super truc bidule électroniquement nouveau et amélioré semble sauter du rayon et exiger que vous l'achetiez. Soudainement, vous avez l'impression que si vous n'achetez pas immédiatement ce produit, il manquera quelque chose dans votre vie. Mais d'où provient cette impulsion, cette pensée qu'il faut absolument l'avoir? Diriez-vous que ce type de réaction est une expression spontanée de votre constitution naturelle? Est-ce une manifestation de la pureté fondamentale de votre esprit? Ou est-ce plutôt une réponse habituelle conditionnée par les heures de publicité auxquelles vous avez été exposé? Prenons maintenant un exemple complètement différent. Vous voyez un étranger au loin, et bien que vous ne sachiez rien de lui et qu'il ne vous ait rien fait, instantanément vous ne l'aimez pas. Vous vous sentez peut-être tellement mal à l'aise en le regardant que vos muscles commencent à se contracter comme si vous vous prépariez à vous battre. Ici aussi, demandez-vous d'où provient cette impulsion agressive. Est-ce une réponse causée naturellement et librement par une menace réelle et objective représentée par cet étranger? Ou bien la couleur de sa peau et son allure générale correspondent-elles justement à celle d'un groupe ethnique que vous êtes habitué à craindre ou à identifier comme étant un ennemi potentiel? Certaines formes de conditionnement, comme ceux de la publicité et de la propagande politique, sont relativement faciles à identifier. D'autres formes, comme celles auxquelles vous avez été exposé dans votre petite enfance, « tu es terrible, tu es un vrai bon à rien », sont plus difficiles à reconnaître. Et d'autres formes encore de conditionnement, celles qui ont sans doute laissé leur empreinte sur votre esprit dans une vie antérieure, sont peut-être inaccessibles à votre souvenir, du moins pour le moment. Toutes exercent une influence qui dure depuis longtemps sur ce que vous faites, dites et pensez. N'oubliez pas. La méditation est une méthode de déprogrammation des effets du conditionnement. Une fois que vous aurez reconnu que vous avez tendance à réagir à certaines situations d'une certaine manière qui ne fait qu'accroître votre niveau d'anxiété et de gêne, vous aurez envie de neutraliser autant que possible ces influences néfastes. à la place de l'avidité, de la haine, de l'ignorance et d'autres illusions qui ont façonné vos réponses par le passé, vous pouvez choisir de vous familiariser avec des états d'esprit positifs et productifs, comme le consentement, la patience, la bonté et la sagesse. Paroles de sage. Les maîtres bouddhistes adorent rappeler à leurs disciples que l'esprit peut être soit leur pire ennemi, soit leur meilleur ami. Lorsque vous lui lâchez la bride et lui permettez de se déchaîner, comme un éléphant en colère mu par le conditionnement ignorant et par une pensée erronée, votre esprit peut être votre pire ennemi. Mais lorsque vous l'apprivoisez et vous efforcez, en méditant, de dépasser les programmations négatives dans le but d'atteindre les états les plus bénéfiques qui se trouvent en dessous de sa surface, votre esprit devient alors votre meilleur ami. L'une des premières choses que la méditation va vous permettre de découvrir, c'est comment vous garder de répondre à certaines situations d'une manière qui ressemble au réflexe du genou. Pas révolutionnaire à première vue, direz-vous. En réalité, cette aptitude est très précieuse. Peut-être existe-t-il une personne très irritante dans votre vie, une personne que vous devrez rencontrer encore et encore. Nous l'appellerons Patrick si vous préférez penser à cette personne ennuyeuse comme étant une femme, appelez-la Patricia par exemple. Patrick est peut-être un membre de votre famille, un voisin, un collègue de travail, ou simplement quelqu'un que vous rencontrez chaque jour dans la rue. Quel qu'il soit, en général, il vous prend à rebrousse-poil. Ce qui vous gêne chez lui, c'est peut-être une chose qu'il a fait ou qu'il dit, le ton de sa voix ou simplement son look. Peut-être a-t-il un jour dit quelque chose de tellement dégoûtant que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser lorsque vous le voyez. Peut-être n'avez-vous même pas la moindre idée de la raison pour laquelle vous trouvez Patrick irritant. C'est simplement comme ça. La première chose à faire, c'est de clarifier si la manière dont vous réagissez à Patrick vous crée à vous-même un problème. S'il n'y a rien de cassé, il n'y a non plus rien à réparer. Le simple fait d'être ennuyé ne pose pas un grave problème. Et après tout, la vie est pleine de petits ennuis. Mais si vous ressentez l'envie incontrôlable de donner des coups de pied dans les tibias de Patrick à chaque fois que vous le voyez, vous serez probablement d'accord pour dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. La simple irritation a dégénéré en colère et même en haine. Même si vous parvenez à dissimuler votre hostilité, vous bouillez encore intérieurement de colère et de ressentiment, et vous avez encore un problème dont vous devez absolument vous occuper avant qu'il ne devienne dévorant. N'oubliez pas. Alors, comment faire face à cette hostilité? Pas par des actions violentes, elles ne serviraient qu'à envenimer les choses. Si vous êtes un tenant de l'approche bouddhiste, vous avez compris que la seule manière efficace d'améliorer une situation, quelle qu'elle soit, consiste avant tout et surtout à travailler sur vous-même. Tant que votre propre attitude reste inchangée, tout ce que vous ferez au sujet de l'objet de votre négativité ne résoudra pas le problème sous-jacent. Lorsque vous vous efforcez de travailler votre propre esprit de manière à pouvoir être en mesure de gérer plus efficacement des situations difficiles, l'une des choses les plus difficiles à trouver consiste à savoir quand réagir à ces situations et quand il vaut mieux ne rien faire. Pour revenir à ce vieil enquiquineur de Patrick, lorsqu'il vous énerve, vous devez décider si vous allez l'affronter directement et essayer de résoudre le conflit entre vous deux ou si vous allez complètement vous retenir de réagir envers lui. Chaque situation à laquelle vous faites face est unique et il n'existe pas de recette miracle pour savoir quel est le meilleur choix. Mais pour avoir une chance de faire un choix guidé par la sagesse, vous ne pouvez pas vous contenter de suivre aveuglément vos vieilles habitudes. Car si vous cédez à votre frustration et à votre colère habituelle, l'occasion de réagir avec clarté et sagesse sera perdue. La méditation vous donne un moyen d'esquiver vos vieilles habitudes destructrices. Tandis que vous découvrez comment apprivoiser votre esprit par la méditation, viendra un moment où vous serez capable de gérer pacifiquement les situations difficiles, alors même qu'elles sont en train de se dérouler. Au début, toutefois, cela relève de l'exploit. dans le feu de l'action où vous êtes trop pris pour pouvoir agir objectivement ou avec habileté. Alors, quelle est donc la meilleure stratégie, du moins au début, pour gérer les situations difficiles et stressantes? Ne faites rien. Si vous pouvez éviter de rencontrer Patrick, c'est très bien. Mais si vous ne pouvez pas éviter ces rencontres, essayez de faire avec la nuisance autant que possible sans y réagir. N'oubliez pas. Préparez le terrain. Bien que ne pas réagir à une situation difficile puisse être un palliatif à court terme, la seule solution vraiment efficace et durable à votre problème commence avant même que vous ne le rencontriez. Avant, c'est le meilleur moment pour travailler sur votre attitude et vous préparer à gérer adroitement ce que vous pourrez rencontrer quoi qu'il arrive. Et c'est ici que la méditation fait son entrée en scène. Avant que vous ne quittiez votre chambre le matin, passez quelques minutes assis calmement, seul, en permettant à votre esprit de se calmer. Lorsque vous serez prêt, imaginez que vous rencontrez la situation qui provoque la colère. Par exemple, une rencontre avec votre pote Patrick, plus tard dans la journée. Décrivez la rencontre de façon aussi vivante que possible dans votre imagination. Imaginez-le en train de faire ce qu'il fait habituellement pour vous faire exploser. Puis, cette partie requiert un peu de pratique au début. Prenez du recul et observez simplement ce qui se passe. Regardez la personne irritante comme si vous la voyiez pour la première fois, comme si vous étiez en train de suivre un documentaire sur une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Notez les expressions de son visage, les mots et les phrases qu'elle emploie, ses actions, etc. Procédez comme si vous faisiez un inventaire, en notant ce que vous trouvez, sans émettre le moindre jugement. Puis d'une manière tout aussi objective, observez vos propres réactions, comme si vous les étudiez de l'extérieur, comme si quelqu'un d'autre avait pris votre place dans cette rencontre. Examinez maintenant ce que vous ressentez, ce que vous pensez et comment vous réagissez. Soyez aussi objectif que possible, comme un scientifique qui procède à une expérience et puis prend du recul pour observer ce qui se produit. N'oubliez pas. Ce type d'observation est un véritable numéro d'équilibriste. Vous devez trouver un moyen de faire alterner deux états d'esprit différents. Pour commencer, vous devez imaginer avec suffisamment de vivacité votre rencontre désagréable pour pouvoir réagir avec réalisme, avec des sentiments réels, comme si la scène se produisait vraiment. Vous ne faites pas semblant de réagir. Vous êtes vraiment en train de recréer vos réactions types, mais à une échelle réduite. Comme ces réactions émergent dans un environnement sans danger et contrôlé, à l'intérieur de votre propre méditation, il n'y a pas de danger que vous recréiez le type de négativité qu'une rencontre avec Patrick en chair et en os entraîne habituellement. Pourtant, comme la rencontre se produit dans votre méditation, trouvez un recoin de votre esprit qui n'est pas pris dans les réactions qui résultent de cette rencontre. Servez-vous de cette bonne place pour observer, de façon aussi détachée que possible, ce qui se passe. Les instructeurs de méditation de Yon compare ce coin de l'esprit à un espion en temps de guerre. Certaines traditions bouddhiques l'appellent le témoin, l'observateur, ou simplement l'attention. L'espion n'est pas engagé dans le combat. Il ou elle reste discrètement en bordure du champ de bataille et observe simplement ce qui se passe. Vous serez sans doute surpris de découvrir que vous possédez l'aptitude d'observer ce qui se produit en vous sans être entraîné dans le feu de l'action. Pourtant, c'est vrai, cette possibilité existe réellement en vous. Et plus vous vous servirez de cette aptitude, plus elle deviendra forte, un peu comme un muscle. Modifiez votre angle d'approche. Lorsque vous aurez découvert comment passer aisément de la partie principale de votre esprit qui recrée l'expérience, dans ce cas, une rencontre horripilante avec cet enquiquineur de Patrick, au recoin de votre esprit qui observe simplement vos réactions, vous pourrez continuer dans plusieurs voies différentes. Essayez de considérer la situation sous des angles différents. Au lieu de vous contenter de voir Patrick de votre point de vue limité, essayez de le voir à travers les yeux d'un autre. Il existe probablement quelqu'un qui pense que Patrick est un type très bien. Essayez d'observer ce Patrick-là un moment et voyez comment vos réactions à son sujet commencent à changer. Il est même possible que vous ayez bien aimé Patrick par le passé. Si c'est le cas, alors essayez de vous souvenir de l'époque où vous aviez des sentiments d'amitié pour lui. En vous concentrant sur cette version de Patrick plus gentille et plus aimable, vous pouvez commencer à découvrir des traits positifs chez votre adversaire, que vous aviez soit oublié, soit jamais remarqué. Avec cette découverte, votre vision de Patrick va commencer à s'alléger un peu. Votre vision concrète de lui comme n'étant rien d'autre qu'une personne irritante va commencer à se dissoudre, et vous allez remarquer que vos réactions négatives envers lui vont perdre de l'intensité. Cet exploit introduit la possibilité que vos rapports avec Patrick évoluent avec le temps. Tous les deux, vous pourriez même devenir les meilleurs amis du monde, mais n'allez pas jusqu'à retenir votre respiration en attendant que cela se produise précisément. Pourtant, même si vous ne devenez pas de grands amis du jour au lendemain, au moins vous n'aurez plus de problèmes sérieux avec lui. Concentrez moins votre attention sur le problème et davantage sur les réactions qu'il suscite chez vous. Patrick vous énerve, c'est un problème. Et cet énervement a une manifestation probablement très concrète, comme la sensation d'un bloc qui vous serre la poitrine. Mais en observant ce sentiment de plus près, vous allez remarquer que cet énervement n'est de loin pas aussi important qu'il ne le semblait au début. Comme tous les sentiments, il surgit dans votre esprit, y reste un court moment, et puis baisse d'intensité. Il n'y a rien de solide ni de concret. Si vous ne vous souvenez pas vous-même d'à quel point vous détestez Patrick, ce sentiment d'irritation va disparaître tout seul. Le fait que vous vous rendiez compte de la nature passagère et peu substantielle de vos sentiments va vous empêcher de leur accorder autant d'importance que vous ne l'avez fait auparavant. Cette prise de conscience, à elle seule, va beaucoup vous soulager de la difficulté dans vos rapports avec Patrick. Avez-vous remarqué qu'aucune de ces deux approches n'essaie de changer la moindre chose chez Patrick ? Au contraire, elle change vos propres attitudes, points de vue et réactions. Vous n'êtes pas obligé d'oublier Patrick complètement. S'il fait quelque chose de dommageable et si vous connaissez une manière habile et efficace de l'aider à modifier son comportement, allez-y. Mais ne comptez pas là-dessus. La seule chose sur laquelle vous ayez sans le moindre doute du pouvoir, c'est votre propre attitude. Et c'est donc ce sur quoi la méditation s'efforce d'influer. L'enseignement du Bouddha regorge de méthodes différentes pour modifier la manière dont vous voyez les choses, de telle sorte que vous puissiez réduire votre gêne, élaborer des méthodes habiles pour gérer les situations difficiles, ouvrir votre cœur aux autres et aiguiser votre sagesse. Nous vous présentons certaines de ces techniques de méditation à différents endroits de ce livre, là où elles sont appropriées. Mais toutes ces techniques ont certaines qualités en commun. Elles vous aident à être plus flexible et plus créatif dans la manière dont vous gérez des situations potentiellement difficiles. Abandonner de vieilles habitudes qui vous gardent piégé dans l'insatisfaction et la frustration. La méditation présente de nombreux autres bienfaits. Beaucoup impliquent le fait que vous viviez votre vie avec une plus grande conscience et une plus grande présence, ce qui vous permet de trouver davantage de plaisir et de développer une plus grande compréhension des gens et des circonstances. La liste qui suit énumère quelques-uns de ces bienfaits supplémentaires. Pour en savoir plus sur les bienfaits de la méditation et sur sa pratique, reportez-vous à la « Méditation pour les nuls » de Stéphane Bodion, dont nous avons tiré cette liste. La méditation, donc, permet de prendre conscience du moment présent. La méditation vous apprend à ralentir et à rencontrer chaque moment tel qu'il se présente. De faire de vous-même un ami. Lorsque vous méditez, vous découvrez comment accueillir chaque expérience et chaque facette de votre être sans jugement ni rejet. D'approfondir vos rapports avec les autres. Tandis que vous prenez conscience du moment et que vous ouvrez votre cœur et votre esprit à votre propre expérience, vous faites naturellement profiter les membres de votre famille et vos amis de cette qualité de conscience et de présence. De détendre votre corps et de calmer votre esprit. Tandis que l'esprit se calme et se détend durant la méditation, le corps fait de même. Et plus vous méditerez régulièrement, plus cette paix et cette relaxation se propageront pour atteindre d'autres domaines de votre vie. De vous dérider. La méditation vous permet de trouver un espace libre de votre esprit dans lequel les difficultés et les préoccupations ne semblent plus aussi menaçantes et où des solutions constructives peuvent naître naturellement. De faire l'expérience de la concentration et d'être plongé dans l'instant. Par la méditation, vous pouvez découvrir comment donner à chaque activité la même attention concentrée, agréable, que vous n'accordez encore actuellement qu'à certains moments particuliers, tels que pratiquer votre sport préféré ou faire l'amour. De vous sentir plus centré, d'avoir davantage les pieds sur terre et d'être plus équilibré. Pour contrecarrer les peurs et les inquiétudes de la vie, la méditation donne un sens de stabilité et d'équilibre intérieur que les circonstances extérieures ne peuvent détruire. D'améliorer vos performances au travail et dans vos loisirs. Des études ont prouvé qu'une pratique simple de la méditation peut améliorer la perception, la créativité, l'expression de soi et de nombreux autres facteurs qui contribuent à la réalisation de performances supérieures. D'intensifier vos sentiments de reconnaissance, de gratitude et d'amour. Tandis que vous découvrez comment accueillir votre expérience sans jugement ni aversion, votre cœur s'ouvre progressivement lui aussi, à vous-même et aux autres. De trouver un sens profond à la vie. Alors que vous accueillez votre expérience dans la méditation, vous vous trouverez peut-être relié à un courant plus profond de sens et d'appartenance. De prendre conscience de la dimension spirituelle de l'existence. Tandis que votre méditation vous ouvre à la richesse de chaque moment éphémère, vous commencez naturellement à voir derrière le voile des perceptions et des croyances déformées.